Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et oui, bienvenue, bonjour, bienvenue sur nos antennes. On est en direct du SIEC, ça y est, deux jours où que l'on va vous faire vivre à la Porte de Versailles. On va vous faire vivre cette édition 2025, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux. Et pour bien commencer, eh bien, je reçois non pas un, mais deux invités pour une table ronde. Grégory Fouble, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le fondateur de Pierre et Maurice. Alors on va en parler dans quelques instants. Vous allez nous présenter Pierre et Maurice que vous avez fondé. Vous faites en gros de la conception du design stratégique, hein, c'est ça?
Oui, pour l'immobilier, pour les foncières.
Voilà. Et avec vous Stéphane Duc, directeur du pôle retail d'Isospace. Alors Isospace, qu'est-ce que vous faites? De la mise en œuvre, hein, c'est plutôt ça.
Bonjour Bérénice. Oui, tout à fait. Donc nous, on est un groupe qui est spécialiste dans l'aménagement et l'agencement d'espaces commerciaux. Et donc, on fabrique, entre guillemets, des magasins qui ensuite s'implantent dans les centres commerciaux des foncières qui sont présentes ici.
D'accord. Et alors, pour aller un peu plus loin, donc vous travaillez ensemble, hein, vous êtes partenaire, hein, c'est ça, Grégory?
Oui, tout à fait. Nous, on a très vite, en phase conception, besoin de soumettre nos idées à des gens qui savent faire les choses. Donc, typiquement, on va voir Isospace. On présente nos plans et ça nous permet de budgétiser. Ils ont toute une équipe d'économistes et ainsi de suite.
Donc c'est ce que j'allais dire. À quel moment, à quel stade vous allez voir Isospace?
Très vite, parce que quand on développe des concepts, on doit être en capacité de les chiffrer, d'apprécier la complexité technique. Donc on soumet très vite à des gens comme Isospace nos dessins.
Et donc vous intervenez à ce moment-là?
Alors on intervient, on prend le relais entre guillemets, mais c'est vrai que la collaboration en amont est importante parce que même s'il faut leur laisser le temps d'être créatifs et ne pas leur mettre en scène des schémas de contraintes, etc., pour qu'ils aient cette capacité à être créatifs quelque part,
ouais.
C'est ce qu'on attend d'eux. Hein.
Oui, bien sûr.
Nous, assez vite derrière, effectivement, l'idée c'est de pouvoir être sûr qu'on va pouvoir mettre en œuvre et donc de collaborer en amont sur les projets pour être sûr de leur faisabilité et qu'elles soient économiques, qu'elles soient techniques. Pour que tout ça puisse arriver.
Donc vous êtes un peu le magicien, donc vous avez l'idée de départ et vous êtes le magicien pour que tout puisse aboutir en gros.
Magicien, je dis pas.
Bon, en tout cas, l'idée, on a bien compris, c'est de créer un dialogue croisé entre vous deux hein, pour transformer les lieux de commerce avec un fil conducteur, vous l'avez dit, autour du lien social, de la désirabilité et de la performance aussi.
Oui. Alors
justement, le thème du siècle cette année, c'est les espaces commerciaux sont des lieux de lien. On va dire que c'est ça qui transpire. Pourquoi, pour vous, en fait, en quoi ce tournant est structurant pour les foncières aujourd'hui?
Bon, ça a toujours été des lieux de lien. Ça fait, enfin, en tout cas, ça fait 15 ans qu'on s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'a été inventé, en tout cas, exprimé le concept de parcours client, créer de l'entertainment dans des centres commerciaux. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça, c'est qu'on a des actifs immobiliers qui doivent servir les intérêts de différents preneurs, jusqu'à de la résidence partagée. Donc on doit faire du service, de la résidence, du bureau.
Dans un bâtiment,
commerce,
hein, c'est ça.
Dans un actif commercial.
Ouais, ouais.
Et du service même, de la santé. Donc en fait, on a une diversité d'acteurs, de visiteurs qui vivent dans un centre commercial qui est colossal et qui n'a pas fini de se multiplier. Et c'est ce lien-là dont on est, nous, garants.
Donc une mixité des usages. J'imagine que du coup, ça crée des attentes opérationnelles aussi.
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que les motifs de visite aujourd'hui d'un centre commercial, mais dont même le nom de centre commercial est un peu usuel. Enfin, c'est
oui,
vieux.
C'est vrai, c'est obsolète.
C'est obsolète, ouais. Exactement. Donc c'est un centre, effectivement, qui devient multi-intérêt. J'y vais pas que pour faire du shopping. J'y vais aussi pour la santé, par exemple. On voit des centres de santé qui sont aujourd'hui relativement importants dans certains actifs.
Et ça, c'est rentré dans les mœurs, quand on, justement, les Français, ça y est, ont l'habitude maintenant d'aller dans les pôles, comme vous les appelez. C'est plus, on va plus juste faire ses courses, on va, voilà. Est-ce que les habitudes ont changé? Est-ce que, du coup, ils n'ont pas les mêmes jours? Est-ce que...
L'évolution des centres-villes et la difficulté d'accéder en voiture de plus en plus, hein, fait que les gens se déportent sur d'autres, ont besoin d'accéder quand même à ces services. Et là, les centres commerciaux ont bien compris la demande et ils y répondent avec plus ou moins de vitesse et d'efficacité. Mais ceux qui ont plus de moyens, en effet, s'adaptent plus vite.
Oui.
Et clairement, oui, un centre médical, typiquement, ça carbure dans, ah bah, dans un centre commercial.
Avec les déserts médicaux qu'il y a en France, c'est vrai que ça, ça ne peut que fonctionner. Comment, justement, l'idée de rassembler, on l'intègre dans la conception du projet ? Quels sont les différents leviers pour rassembler ?
Justement, à un moment donné, on dessine un peu différemment pour chacun de ces acteurs et Stéphane réalise un peu différemment pour chacun des acteurs. Maintenant, c'est de mettre tout ça en musique. Et l'avantage d'être transverse, comme Isospace, c'est qu'ils sont en capacité d'aborder les problématiques boutiques, les problématiques santé, avec les problématiques d'hygiène, d'accueil, de confidentialité, et même d'usage tertiaire. Donc, c'est là que ça devient très intéressant. Notre métier évolue de manière hyper, hyper enrichissante.
C'est le centre commercial qui est né dans les années 70, où on avait ce bloc de béton avec ce parking à côté.
Immense parking qui pose un problème maintenant, aujourd'hui. Hein.
Qui pose un problème maintenant, parce qu'il est uniquement pour les voitures, même pas pour les vélos. Il faut y mettre des recharges. Et puis le bloc de béton, on n'en veut plus. On veut des fenêtres, on veut de la lumière qui rentre, on veut des rooftops, on veut plein de choses. Donc effectivement, tout ça, ça a vraiment évolué, avec, comme le dit Grégory, des vitesses assez différentes selon les actifs.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, effectivement, ça devient... Un lieu dans lequel, en plus, on va trouver des escape games, on va trouver des choses qui sont... On est multi-intérêts. Mm. Les food courts sont un exemple. Et donc, nous, on vient intervenir, effectivement, sur les preneurs qui viennent s'implanter dans ces sites. Certains y sont déjà et ont d'ailleurs l'obligation d'essayer de rénover leur magasin pour coller à les attentes du nouveau site, entre guillemets.
Bien sûr.
Et c'est tout cet accompagnement qu'on met en scène, oui.
Est-ce qu'on peut dire que les foncières vous demandent aujourd'hui de répondre à des objectifs qui sont quand même contradictoires ? Par exemple, la performance économique, la fluidité, le confort, la performance énergétique, c'est très important, le côté vert, enfin, c'est vrai que tout mettre en œuvre, c'est quand même assez... c'est un gros défi.
On n'a pas le choix.
Oui.
La performance énergétique, le côté RSE, et tout ça, c'est une nécessité, de toute façon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça passe dans le grill des finances, et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, mais on n'a pas le choix.
Mmh. Et ça veut dire
la future.
Ça veut dire qu'on doit être très curieux, et ça veut dire qu'au sein de l'agence, on doit embaucher des expertises très différentes. Donc en effet, on a un paysagiste, on a un designer urbain, on a un designer produit, plutôt dédié au mobilier, on a un architecte, on a des graphistes.
En fait, ça demande plus de compétences, c'est ça ?
Une diversité, oui, des compétences riches et diverses. Pour et des gens amenés de manière cohérente.
Exactement, puis des gens amenés à faire du sourcing de matériaux, de finitions pour alimenter les concepts. Parce que, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on peut utiliser des matériaux recyclés pour faire des gradins, pour faire de l'hospitality. Où on retrouve beaucoup effectivement de finitions qui sont des finitions plastiques de synthèse, mais tout ça c'est l'avenir.
Oui. Et du coup j'imagine que les équipes sont plus grosses qu'avant, parce que là vous citez non je rigole.
Non mais en tout cas on est capable de, par exemple typiquement une agence de 10 personnes, nous on est une agence de 10 personnes, le groupe Isospace vous êtes 90-100.
Oui. On est 90.
Bon. Voilà, en effet, 10, on doit bien sélectionner nos chefs de projet. Donc, c'est des gens très curieux, transverses. Et après, quand on a besoin d'une expertise très spécifique, on a un réseau.
D'accord. Voilà. D'accord. Mais, vous faites appel à d'autres personnes.
Mais clairement, il y a 7, 8, 9 personnes, cerveaux, qui interviennent sur un projet de réno d'actifs immobiliers de commerce. Là, on en a quelques-uns, notamment avec ceux qui sont en face, Nood. On va être au moins 6 à réfléchir à l'objet. Hein. Mm. Terminé, l'architecte qui est dans son coin, qui dessine un truc un peu joli, il est tout seul. Non, là, il faut vraiment mouliner pour que ça marche. On fait une sorte de travail d'asset thinking en design.
D'accord.
Ça, c'est vraiment essentiel.
Est-ce qu'on peut calculer la rentabilité d'un centre commercial autrement que par le chiffre d'affaires par mètre carré ?
Ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux foncières.
Oui, c'est ça.
Parce que il y a des calculs. Quand vous parlez de rentabilité, il y a des calculs, effectivement, capitalistiques, entre guillemets, sur comment on valorise les vacances, etc. Bon, tout ça est quand même beaucoup dans le domaine de la finance. Je ne sais pas répondre.
Mais il y a la question de la rentabilité des investissements.
Parce qu'on est d'accord, c'est comme ça que ça se calcule en général. C'est...
Bah, pas toutes les foncières.
Pas toutes les foncières.
Les foncières ne pensent pas à la rentabilité court terme. Il y en a qui pensent à la rénovation de leur patrimoine, parce qu'ils ont une vision, ils sont dans la gestion de leur patrimoine, et puis ils ont l'historique de leur patrimoine. Donc ils vont investir un peu plus que ce qu'une rentabilité exigerait, en pariant sur l'avenir.
D'accord.
Et vraiment, ouais. Le stand d'en face.
D'où la mixité des usages des aussi, ça rentre en compte sur le long terme.
Oui, déjà, ils ont. Oui,
bien sûr.
Donc là, on a des actifs avec une propriété foncière assez costaud. Je cite encore Nood, mais ils sont en face de nous. Et ils font du logement, ils font du tertiaire, ils switchent tout ça. Alors oui, il y aura une rentabilité à la fin, mais l'actif commercial pur, il y a une part d'inconnu quand même. Donc l'idée, c'est quand même de dépenser pour rentabiliser chaque mètre carré, mais on s'autorise un peu de risque.
Est-ce que la plupart du temps, vous transformez un actif qui existe déjà, dont on parlait, qui est fatigué, voire délaissé, est-ce que vous avez aussi des exemples concrets à nous citer d'un actif que vous avez réussi à réactiver, à transformer ?
Alors, délaissé, fatigué, oui, on a un actif rigolo qui était à Logne pour la Française, Valoré. Oui. Donc, le truc était vraiment, plus personne n'arrive à payer son loyer. Donc, on a pour 500 000 euros, c'est un beau bébé avec un Jiffy, avec un escape game, avec un laser game, pardon, et puis un truc de bureautique et un restaurant asiatique. On a réussi à redonner vie complètement à cet actif. Donc ça, c'est une belle réussite. Et finalement, le client l'a gardé en gestion alors qu'il comptait s'en débarrasser.
D'accord.
Mais j'en ai d'autres comme ça sur Lens 2.
Parce que pourquoi il l'a gardé? Parce que rentable?
Bah, ou... Oui, il s'est rendu compte que finalement, avec cette vision, il a pu recommercialiser toutes ses cellules. Ils ont fait leur petit calcul, ça a mouliné bien et ils l'ont gardé en gestion.
Donc grâce à la transformation.
Donc très souvent, on intervient sur des trucs complètement, on n'y croit plus et on arrive à switcher l'objet et la foncière la garde en gestion. Donc, et puis après, il y a des actifs où on a des problématiques un peu techniques comme les terrasses du port, où tout le monde se dirige directement à l'Apple Store et il a fallu redistribuer les flux dans l'ensemble des mailles, pardon, parce que...
Donc réfléchir à comment modifier le parcours du consommateur.
En préemptant certaines cellules et ainsi de suite
c'est intéressant.
Pour dispatcher le consommateur parce que sinon les mailles se vidaient. Donc ça, c'était une belle réussite aussi, les terrasses du port.
Ça vous rentrez aussi dans cette phase quand on réfléchit au parcours du consommateur sur le lieu commercial?
Et c'est essentiel, c'est-à-dire même dans un magasin, même s'il est de petite taille, effectivement, raisonner par rapport au parcours client au sein de la coque est capital pour essayer de conserver la désirabilité et puis surtout montrer en fait le produit qui reste l'élément à commercialiser dans la boutique. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire, surtout auprès de jeunes start-upers qui viennent du digital et qui découvrent le physique, pas forcément les réflexes, mais plutôt des réflexes digitaux. Et donc là, il y a un travail de pédagogie à faire qui est assez important.
On va terminer avec le siècle, l'édition 2025. Alors, vous êtes exposant, vous partagez un stand en tant que partenaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2025? Pourquoi vous êtes présent? Alors, vous me disiez à Rantaine que c'était la deuxième année, c'est ça, que vous exposez, en tout cas. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous venez faire? Et c'est vrai que les autres années, vous veniez en tant que visiteur aussi. Qu'est-ce que vous venez chercher dans cet événement?
Loin des yeux, loin du cœur. Donc du coup, on se colle bien à nos clients pour qu'ils nous rappellent leurs bons souvenirs. Il y a pas mal de sujets en cours, en développement. Donc le fait d'être présent quand même sécurise, rassure les clients. Et puis on rencontre de nouveaux acteurs, des partenaires. Donc c'est vraiment enrichissant pour une agence comme la nôtre.
Et pour vous,
Les salons professionnels, quand ils sont bien ciblés, et quand la clientèle est sélectionnée, qu'on n'est pas effectivement dans des salons mi-professionnels, mi-publics, etc., sont souvent en fait source de développement de business qui sont intéressants.
Ouais.
Et puis bon, au-delà de tout ça, c'est travailler la présence à l'esprit, c'est travailler effectivement un réseau. C'est pas que LinkedIn, c'est aussi.
C'est efficace, mais ça a ses limites.
Mais ça ne suffit pas.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Il faut les deux. Eh bien voilà, alors on vous retrouvera donc pendant 2 jours sur votre stand. Merci à vous en tout cas. Et puis nous, on continue ces 2 journées marathon sur notre plateau. Vous voyez, on a notre stand en direct du SIEC 2025. À très vite, à tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.